séquence pour comprendre et débattre sur Radio PFM proposée le mardi, une séquence d'information proposée par Paul Masson et Radio PFM. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Alors depuis trois mois, vous proposez à cette antenne une série de séquences sur le thème de la mondialisation. Aujourd'hui, vous avez choisi comme thème de nous parler de l'AGCS, accord général sur le commerce des services. Alors pourquoi une émission spéciale sur l'AGCS ?
La dernière fois, j'ai présenté un petit peu l'ensemble des secteurs qui concernaient l'Organisation mondiale du commerce et j'ai décidé de faire une émission particulière sur cet accord général sur le commerce des services. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'il est plus important à l'échelle du monde, mais pour nous, il est le plus important puisque les services représentent en France 70% des échanges commerciaux. C'est-à-dire que l'accord sur les services concerne 7 travailleurs sur 10, alors que l'agriculture concerne que seulement 5%. Vous voyez, donc il y a un enjeu important au niveau des services.
Alors oui, quand on parle de services, c'est par opposition donc, à l'agriculture et au secteur industriel. Est-ce qu'on peut rappeler ce que recouvrent les services ?
Alors les services, c'est un secteur très très vaste. L'Organisation mondiale du commerce, dans les accords de l'AGCS, accord général sur le commerce des services, les a divisés en 12 têtes de chapitre et en 160 sous-secteurs. Ça recouvre à la fois les services aux entreprises. Une entreprise fait appel à une autre entreprise pour sa comptabilité, ça fait partie des services. Elle fait appel à une société de nettoyage pour nettoyer ses bureaux, la société de nettoyage fait partie des services. Au niveau des services, on va encore avoir tout le secteur, par exemple, qui se développe énormément, de la communication, le téléphone, Internet, l'audiovisuel, la production cinématographique, c'est du domaine des services. Et vous voyez qu'il y a un enjeu sur la culture. On a des secteurs aussi, tout ce qui est les services financiers, les assurances, les banques. Et puis on a ce que nous on appelle les services publics, tout ce qui est l'eau, gaz, électricité, c'est du domaine du service. La santé, les services sociaux, c'est du domaine des services. Vous voyez que autour des services, on touche pratiquement une très grande partie des activités économiques en France.
Alors donc ça nous amène à parler de l'importance de ces accords, de cet accord général sur le commerce des services.
Alors cet accord général sur le commerce des services, il a deux aspects. D'une part, un premier aspect qui est un accord cadre. Alors qu'est-ce que c'est qu'un accord cadre ? C'est une règle générale qui dit voilà dans quelle direction on va, voilà ce qu'on veut faire. Et cet accord cadre dit qu'à l'échelle du monde, on entend libéraliser le commerce des services. Ça veut dire de faire en sorte que la concurrence, à terme, puisse s'appliquer dans le domaine de tous les services. C'est vers ça qu'on veut. L'éducation, la santé, c'est des services et on veut aller vers ça. C'est l'accord cadre qui le dit. Et comment on va le faire ? En supprimant toutes les barrières tarifaires et non tarifaires. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ça, c'est le cadre général. Cet accord, voilà ce qu'il dit. Il dit tout service est objet du marché. Et il ne doit pas y avoir d'autres règles que les règles du marché pour réguler les services.
Alors peut-être comment cet accord s'applique concrètement ?
Alors il s'applique sous forme d'engagement. Chaque pays est invité à dire voilà les services qu'on met au service du marché. C'est-à-dire qu'on va les ouvrir progressivement. Par exemple, l'Union européenne dit tout ce qui est des services des transports, on l'ouvre à la concurrence internationale et on va faire en sorte qu'il soit complètement libéralisé. C'est ce type d'engagement. Alors ce type d'engagement, le fait de l'avoir pris dans un secteur va avoir un certain nombre de conséquences. C'est-à-dire que l'OMC va être en droit de regarder et de mettre son opposition dans tout ce qui est les domaines des lois et réglementations. Un État qui s'est engagé sur la libéralisation des services des transports, sa réglementation va être contrôlée pour l'OMC et de voir s'il n'y a pas entrave au commerce. Pour nous, ça va poser le problème de la notion des services publics. Dans la mesure où un État dit « on a besoin de tels services » et l'État entend le favoriser par des subventions, l'OMC va dire « attention, vous n'avez pas le droit ou vous devez appliquer aux autres entreprises qui voudraient se mettre sur ce secteur les mêmes conditions que celles que vous mettez au service public. » L'OMC a possibilité de sanctionner les pays en utilisant l'ORD, organe de règlement des différends. Un autre aspect qui est prévu dans l'accord général du commerce des services, c'est qu'une fois qu'un État s'est engagé, l'État n'a pas le droit de revenir sur cet engagement. C'est-à-dire qu'une fois que l'Union européenne s'est engagée dans le domaine des transports, elle n'a pas le droit de revenir là-dessus. Si elle voulait y revenir, il faudrait que ses partenaires en face soient d'accord et qu'elle propose un autre secteur pour le remplacer et que les partenaires d'en face soient d'accord. C'est-à-dire qu'une fois que le processus de libéralisation est engagé, on ne peut pas revenir en arrière.
Alors vous nous dites cet accord en général, c'est une grande direction qui est prise au niveau mondial. Il y a quand même des limites à ces accords, je pense notamment au secteur de l'éducation et puis au secteur culturel, non ?
Alors, il y a un cadre général dans lequel on va. Et progressivement, les États doivent s'engager vers plus ou moins d'ouverture de plus ou moins de secteurs de ce marché. Actuellement, l'Union européenne ne s'est pas engagée dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que l'accord ne s'applique pas dans ce domaine-là. Mais le cadre de l'OMC dit on va vers la libéralisation de tous les services. C'est-à-dire que la direction à prendre, c'est celle-ci, sans retour arrière. Ce qui fait dire au directeur de la division des services de l'OMC, la GCS va accélérer le processus de libéralisation et de réforme et le rendra irréversible. En prenant ce type d'accord, on fait en sorte que la libéralisation devienne irréversible.
Alors, on l'a bien compris, ça c'est un accord qui est global, mais j'imagine qu'au niveau local, ça pose des problèmes, notamment dans la mise en place d'une politique de services publics.
Alors, le fait que cet accord soit signé et soit signé par l'Union européenne, c'est-à-dire par la France, l'État français, dans le cadre de l'Union européenne, a délégué ce pouvoir à l'Union européenne et le commissaire au commerce est chargé, M. Mandelson, qu'on a vu à Hong Kong, est chargé de mettre en œuvre cette politique au niveau de l'Union européenne. Ça va avoir un certain nombre de conséquences sur les pays. Le fait que la Poste, encore dernièrement, est devenue une banque, on va vers, progressivement, la Poste. L'idée d'une poste-service public doit être démantelée. Et la banque, à terme, la Poste doit devenir un service financier comme les autres, un service distributeur de courrier comme n'importe quelle entreprise privée pourrait le faire. Au niveau des transports, on a eu l'occasion d'en parler avec la SNCF. J'avais fait une émission expliquant bien comment progressivement la SNCF s'organisait pour faire en sorte que cet accord puisse être pris en compte. Un sujet d'actualité, c'est la directive Bolkestein. La directive Bolkestein, dont on a parlé au niveau du traité constitutionnel, arrive au Parlement européen. Aujourd'hui, les députés européens doivent voter sur la directive Bolkestein. La directive Bolkestein, c'est la directive des services. On entend organiser le libre marché des services. Parmi les services, il y a l'utilisation des travailleurs. Et que dit la directive Bolkestein ? Qu'on n'appelle plus Bolkestein, qu'on l'appelle directive sur les services. Que dit cette directive ? Il faut que les travailleurs de n'importe quel pays d'Europe puissent venir travailler dans n'importe quel pays aux conditions de leur pays d'origine. Vous voyez, on est en train d'opérationnaliser, de mettre en œuvre cet accord sur le commerce des services. Donc ça a une conséquence sur les services publics, ça c'est net, on vient de le voir, et sur la protection sociale. Concernant la protection sociale, la remise en cause de la sécurité sociale, la remise en cause des caisses de retraite, les deux réformes qui ont eu lieu, c'est un moyen pour permettre qu'une entreprise d'assurance puisse venir s'installer dans le cadre de la concurrence et ne soit pas gênée par un système de protection sociale reposant sur la solidarité nationale. Les réformes de la sécurité sociale qui ont eu lieu il y a quelque temps, les réformes de la retraite qui ont eu lieu il y a quelque temps, avaient pour but de mettre en œuvre en France l'accord général sur le commerce des services signé à l'échelle de l'OMC par l'Europe.
Alors, on l'a bien compris, ça, au niveau des services publics, c'est un accord qui peut donc avoir des effets néfastes, hein, selon vous. Donc, qui a des intérêts dans ce type d'accord, en fait ?
On en revient sur ce qu'on a dit d'une manière générale sur l'Organisation mondiale du commerce. Cette Organisation mondiale du commerce, elle a été pensée en fonction d'intérêts l'intérêt de concentration du capital pour les plus grosses entreprises. Le fait qu'on ait une globalisation, c'est le terme qu'on parle pour la mondialisation, que le monde soit considéré comme un seul marché, va permettre à la fois, en jouant sur les niveaux de vie d'un pays à l'autre, à la fois en Europe, à la fois à l'échelle du monde, de casser les systèmes de protection sociale dans les pays où elles existent. Et de faire en sorte que dans les pays où ils n'existent pas, ils aient d'énormes difficultés à se mettre en place. Ça, c'est pour ce qui est des pays développés, les pays les plus riches, ça permet de faire diminuer le coût du travail et de casser le système de protection sociale. Pour les pays pauvres, cette organisation à l'échelle mondiale va permettre d'organiser les pays pauvres sur le modèle libéral et de casser les systèmes traditionnels d'économie. Le petit producteur, je l'ai eu l'occasion de l'illustrer, le petit paysan africain ne peut pas être concurrentiel par rapport aux firmes transnationales qui fabriquent des poulets en série et qui vont pouvoir inonder les pays pauvres. Et cette agriculture traditionnelle, cette organisation sociale dans les pays pauvres, elle aussi sera détruite au profit des transnationales.
Paul Masson, je vous remercie. On va peut-être donner le programme de la prochaine donc séquence pour comprendre et débattre. Ça sera donc la dernière séquence sur ce thème de la mondialisation.
Oui, on a un peu fait le tour de la mondialisation et je me propose la prochaine fois de reprendre les idées forces qui ont été illustrées au cours de ces séances.
Ça sera mardi prochain dans Info 30 à 7h30, 12h30 et 18h30.